Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église pour ce dernier numéro de la semaine. Après avoir commenté un chapitre du Lévitique avec mes invités vendredi dernier, nous allons aujourd'hui nous intéresser plutôt à un certain épisode de la Genèse, puisque cette émission va être consacrée à la chute de l'homme et au péché originel. Pour traiter ce sujet complexe, mais crucial me semble-t-il, j'ai invité le père Philippe-Marie Margelidon, dominicain, docteur en théologie. Bonjour mon père et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour, je vous remercie.
Je précise que vous enseignez à la faculté de théologie de l'Institut catholique et à l'Institut Saint-Thomas d'Aquin de Toulouse et que vous dirigez la revue Thomiste. Vous êtes d'autre part l'auteur de La condition originelle et la tentation d'Adam, le péché originel et sa transmission, un livre paru chez Pierre Tecky éditeur pour lequel vous avez reçu mercredi à Paris le prix de théologie Saint-Jean-Paul II. Autant dire que nous avons affaire à un spécialiste du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je rappelle que l'expression « péché originel » n'apparaît pas dans la Bible. Il va falloir attendre saint Augustin pour cela et nous allons y venir bien sûr. Il n'empêche, cela renvoie tout de même à Adam et Ève et donc à la Genèse. Je pense qu'on a tous besoin de nous rafraîchir la mémoire. Rappelez-nous cet épisode fondateur. De quoi et de qui parle-t-on précisément?
Tout d'abord, on parle du premier couple originel. Il se trouve donc à l'origine des temps, à un moment que nous ne pouvons pas dater, il y avait eu un homme et une femme, le premier couple humain, qui était au départ, par grâce, dans un état qu'on appelle d'innocence, comme disent les théologiens, de justice, c'est-à-dire de familiarité avec Dieu, familiarité d'ordre spirituel et moral, hein, et qu'ils ont mis fin par leur propre faute à cette familiarité en commettant ce qu'on appelle un péché d'orgueil ou un péché dit de désobéissance à la loi divine, dont l'arbre de la connaissance du bien et du mal est le symbole biblique le plus connu. Et c'est à la suite de cette désobéissance originelle que Adam ayant perdu l'état de grâce, comme on dit aussi, se sont trouvés dépouillés spirituellement, moralement, de ce qui pouvait jusqu'ici leur permettre cette familiarité avec Dieu et de s'ordonner de manière droite jusqu'à leur fin, la fin pour laquelle Dieu les avait créés et nous a créés, à savoir la vie éternelle, la vie avec Dieu. Donc c'est ce récit de la Genèse qui est un récit, disons, symbolique, qui est tissé de symboles et d'images, nous raconte une histoire d'un événement réel qui a eu lieu au commencement de ce qu'on appelle l'histoire humaine et qui est la source de bien des mots, M-A-U-X, depuis ce temps-là.
Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La conséquence, pour eux, la première conséquence, c'est qu'ils deviennent mortels.
Voilà, alors il se trouve que dans l'état, en effet, dit de justice ou d'innocence originelle, l'homme qui est naturellement mortel, comme tous les animaux le sont, avait été préservé de la mort, du moins de la mort telle que nous la connaissons. Il n'est pas dit que l'immortalité d'Adam l'aurait conduit à vivre exactement de la même manière, toujours et partout. Mais, ayant perdu la grâce et l'innocence originelle, ils se sont retrouvés dans un état naturel, mais un état naturel déséquilibré qui comprend la mort. Et la mort, qui est l'expérience que nous faisons depuis ce péché-là.
Donc après avoir consommé, mangé ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève sont expulsés du jardin d'Éden, deviennent mortels et toute l'humanité à leur suite.
C'est ça. C'est-à-dire que ce qui est arrivé à Adam et à Ève nous est arrivé. Parce que Adam et Ève nous représentaient, hein, Adam et Ève ont commis le premier péché, et nous en subissons en quelque sorte les conséquences. Parce que en Adam et en Ève, tous les deux ensemble, c'est toute l'humanité à venir qui était comme récapitulée. De sorte que leur faute est la nôtre. Eux, ils l'ont commis, c'est un péché commis. Nous l'avons reçu par la voie de la génération, nous l'avons contracté. Donc, je n'ai pas commis le péché originel, c'est certain. Je ne suis pas coupable de l'avoir commis, mais parce que j'appartiens à la race d'Adam, pour parler ce vieux langage, eh bien, moi aussi, je suis donc un héritier d'Adam et un héritier de ce péché que j'ai contracté, en raison de quoi je n'ai pas la grâce, il faut que Dieu me la restitue. Et le mode commun de restitution de la grâce, c'est le baptême. On reçoit le baptême en vue de recouvrer la vie de la grâce que nous avions perdue en Adam.
Alors on en vient à l'expression elle-même de péché originel qui, je le redis, n'apparaît pas dans la Bible. Elle apparaît pour la première fois sous la plume, si je puis dire, d'Augustin d'Hippone, saint Augustin. On est à la fin du IVe siècle. Qu'est-ce que lui, il entend par péché originel?
Alors, saint Augustin, il invente l'expression, mais il n'invente pas le contenu de l'expression. L'idée qu'il y a une chute, d'abord ça se trouve aussi en dehors du christianisme, mais en christianisme, à partir de l'Écriture, rappelons que saint Augustin est un grand lecteur de l'Écriture, et avant lui, il y avait déjà dans le monde grec comme dans le monde latin, des auteurs, souvent des évêques, mais enfin des théologiens aussi qui ne l'étaient pas, et qui essayaient de rendre compte du contenu de ce récit de la Genèse, de Genèse 3 justement. Et lui a formalisé, il a mis en forme, théologique, ce premier péché, le péché dit des origines ou à l'origine, qu'il a appelé en effet péché originel. On peut dire que saint Augustin est le premier théologien latin à faire une sorte de mise en forme, disons quasi systématique, pas un système, enfin disons très ordonné, de ce qu'on appelle le péché originel. Et l'Église va d'ailleurs recevoir cette doctrine augustinienne. Et ensuite, ce va être Thomas d'Aquin qui va, lui, je dirais, lui donner quasiment sa forme définitive. Mais c'est vrai, c'est Augustin qui est l'inventeur de l'expression et qui a donné à la tradition catholique, mais aussi à la tradition protestante, car les protestants et les catholiques sont sur ce point d'accord à cause d'Augustin, que c'est saint Augustin qui a donné au christianisme occidental, plus généralement, la formule qu'on appelle celle du péché originel.
Alors le péché originel pour saint Augustin, est-ce que ce serait avant tout le fruit de l'orgueil de l'homme qui se veut, qui se voit comme l'égal de Dieu?
Oui, alors il faut faire attention, parce que Adam et Ève, ils ne prétendaient pas égaler Dieu, savaient bien que c'était impossible. Ils ne sont pas fous tout de même. Non, le péché d'orgueil qui comprend une désobéissance au commandement que vous avez rappelé tout à fait au début de cet entretien, l'orgueil, il a consisté à se replier sur soi-même. L'amour de soi qui devient l'amour propre. Le propre d'Adam, c'est pas d'avoir commis un péché absolument extraordinaire, c'est que c'est le premier péché dans lequel est contenu finalement tous nos péchés, à savoir un trop-plein d'amour de soi. Donc c'est ça qui caractérise le péché d'Adam. Et en tout cas, l'orgueil d'Adam a consisté en ça.
Quand vous parlez d'amour propre, ce serait un amour de soi excessif, finalement.
Excessif, désordonné. C'est ce qu'on appelle l'amour de soi désordonné jusqu'à la séparation d'avec Dieu, d'avec son principe. Je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai besoin que de moi-même. C'était déjà le péché de l'ange, avant le péché d'Adam, puisque c'est quand même lui le tentateur.
Oui.
Sans la tentation de l'ange, il n'y aurait peut-être pas eu, je dis bien peut-être pas, pas eu de péché d'Adam et Ève.
Alors, il y a des controverses, y compris à l'intérieur de l'Église, du père de l'Église ou autre, autour du péché originel. Il y a des divergences, notamment dans ce qu'on appelle la théologie du salut. Est-ce que ça concerne ce qu'on appelle le libre arbitre et la grâce? Vous avez déjà évoqué la grâce.
Oui, tout à fait. Ça évoque à la fois la nature, puisque le péché a introduit un désordre dans la nature morale de l'homme. Ça concerne dans la nature humaine l'exercice de sa liberté. Cette liberté humaine, elle est grevée d'un poids qui s'appelle le péché originel. Il reste libre, mais c'est une liberté défaillante, une liberté qui ne peut pas s'ordonner sans que Dieu vienne à son secours par le moyen de la grâce. Donc vous avez tout à fait raison, le péché originel concerne la nature humaine de l'homme, la nature morale de l'homme, sa liberté en particulier. Et aussi avec elle, la grâce. Parce que le péché nous fait perdre la grâce, nous faisant perdre l'état de grâce et l'état de justice. Eh bien, la liberté humaine se trouve dans un état moindre. Elle est moins bien, nous sommes moins bien avec le péché que sans le péché. Ça, c'est une vérité. Alors, ça a des conséquences sur, en effet, la théologie du salut. La première chose que l'on peut dire, c'est que si le Christ s'est incarné, c'est en vue d'une rédemption. Il est venu pour autre chose aussi, mais c'est d'abord en vue d'une rédemption, et cette rédemption, elle a consisté à remédier au premier péché, au péché originel. Donc, oui, en effet, si vous mettez de côté le péché originel, vous comprenez moins bien le sens de la rédemption, et vous comprenez aussi moins bien, par exemple, le fait que l'on demande que les petits-enfants soient baptisés. Parce que si on les baptise, c'est non seulement pour qu'ils reçoivent la vie divine, la vie filiale, la vie avec Dieu, mais que d'abord, ils retrouvent l'état de grâce que nous n'avions pas, puisque nous étions sous le coup, si je puis dire, hein, du péché originel, ce qu'on appelle le péché originel originé.
Peut-être aussi un personnage de l'Église très important dont nous devons parler, c'est saint Paul, oui. Épître aux Romains, et je crois dans la première aux Corinthiens. Lui, il explique pourquoi le Christ a permis la réconciliation, en quelque sorte, entre Dieu et sa création et ses créatures.
Oui, alors il a plus que permis, on peut dire même qu'il l'a voulu. Il a voulu cette rédemption à cause du péché. Alors, il y a en effet dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 12, enfin, le verset emblématique, puisque c'est celui autour duquel il y a beaucoup de controverses, à savoir que en lui, en Adam, tous les hommes ont péché. Et donc, le Christ a remédié à cet état pécamineux, pour prendre un mot un peu vieilli, à cet état de péché de l'homme, par le mystère de la croix. Il a mis fin au péché par ce que saint Paul appelle, d'un terme aussi qu'il faudrait expliquer, il y a beaucoup de mots qui s'engrangent d'un seul coup à propos d'un même sujet, à savoir l'expiation. Le Christ est celui qui a, disons, porté remède, qui nous a purifiés. Expiation, ça veut dire ça. Il nous a purifiés du péché par le mystère de la croix rédemptrice.
Saint Paul écrit, entre autres, bien sûr, « De même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. »
Voilà. Donc le péché originel est un péché que nous contractons du fait que nous recevons de nos parents la nature humaine, mais le Christ y remédie pour nous concrètement par le moyen des sacrements, de telle manière que personnellement, par le baptême, par la grâce du baptême, le péché originel est remis. Donc ce qui a été procuré par la nature, transmise par voie de génération, le Christ ou Dieu, dans le Christ, y remédie en nous conférant la nouvelle naissance, une nouvelle génération qui n'est pas charnelle, celle-là, qui est spirituelle, ce qu'on appelle le baptême.
Donc l'homme est créé à la ressemblance de Dieu, à l'image éternelle de Dieu. Est-ce que le péché originel, finalement, dégrade cette image pour chacun d'entre nous?
Oui.
Est-ce que c'est ça la conséquence?
Oui, c'est une
nature
des conséquences.
Abîmée, comme vous disiez.
Oui, abîmée. Cette image est abîmée. Elle n'est pas détruite.
Il en reste quelque chose. C'est ça ce qu'il faut comprendre.
On ne perd pas la dignité de créature, n'est pas perdue par le péché originel. Mais elle est abîmée. Donc, c'est ce que nous croyons. La révélation nous fait savoir que Dieu a voulu remédier à cette dégradation que constitue le péché originel pour l'image qui est en l'homme, et en particulier dans son âme spirituelle, puisque c'est surtout là qu'il y a image et ressemblance, et que nous retrouvons cette image, elle est restaurée, on parle de réparatio en latin, elle est restaurée par la grâce du Christ.
C'est ça, c'est qu'il en reste quelque chose de cette image éternelle de Dieu en chaque homme, mais nous ne pouvons pas la retrouver par nous-mêmes.
Oui.
Il en reste quelque chose, ça voudrait dire qu'on peut peut-être la retrouver, mais on ne peut pas la retrouver par nous-mêmes. Le seul moyen pour ça, c'est la grâce.
Le seul moyen, c'est la grâce. On ne peut pas, il y a une hérésie qui s'appelle le pélagianisme,
oui.
C'est obtenir le salut par l'huile de coude, c'est-à-dire par ses propres forces. C'est impossible. C'est par grâce que nous sommes sauvés, vous avez cité saint Paul. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Sauvés de quoi? Du péché. Et le premier péché, le péché originel. Donc c'est la grâce qui nous restitue, qui nous remet en condition de telle manière que nous puissions accéder à la fin pour laquelle nous avons été créés. C'est la grâce et la grâce seule. Là, Luther a raison, d'ailleurs à la suite de saint Augustin, gratia sola, c'est la grâce seule qui peut faire de nous de nouveau des fils adoptifs, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes. Il n'y a que la grâce du Christ, qui nous a été méritée par le Christ sur la croix, qui peut opérer ce retour en grâce que je ne peux pas le faire par moi-même.
Alors vous avez déjà un petit peu répondu à cette question, mais je me rappelle quand j'étais nettement plus jeune, je discutais avec une amie qui, comme moi, avait reçu une éducation chrétienne, catholique, et qui me disait, mais Comment peut-on concevoir qu'un enfant qui vient de naître soit pécheur? Comment peut-on concevoir que nous naissions tous pécheurs? Qu'est-ce que vous répondez? Vous devez encore avoir, je suppose, des questions comme ça.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous répondez à des gens qui vous posent cette question, a fortiori lorsqu'il s'agit de gens qui ont reçu une éducation chrétienne?
Alors, la première chose, c'est qu'il faut distinguer ce qu'on appelle le péché commis et le péché contracté. Un petit enfant qui vient de naître, il n'a commis personnellement aucun péché. Donc sous ce rapport, je peux dire, comme les orientaux d'ailleurs aiment à le dire, et ils ont raison sous ce rapport, un enfant n'est pas pécheur.
Quand vous dites les orientaux, ce sont les chrétiens orientaux.
Les chrétiens orientaux, surtout orthodoxes, mais enfin aussi les catholiques orientaux. Un enfant n'est pas pécheur. Néanmoins, il naît privé de quelque chose qu'il devrait avoir. Ce qu'on appelle la grâce, ou encore d'un autre mot, l'état de grâce. Ce mauvais état de sa nature, dans l'enfant, c'est ce qu'on appelle le péché originel. Et on dit que c'est un péché contracté. Donc je n'ai pas commis de péché, mais néanmoins, ce mauvais état coupable de péché, il est en moi. Je le reçois lorsque mes parents m'ont donné d'exister. Ce n'est pas mes parents qui transmettent le péché originel comme tel, mais c'est parce qu'ils transmettent une nature dépouillée de la grâce qu'ils transmettent par là même le péché originel. Mais à ce péché, Dieu a remédié par une grâce plus grande. Vous connaissez aussi, puisqu'on parlait de saint Paul, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais encore faut-il comprendre qu'il a remédié à quoi le Christ? À la faute d'Adam. Et la faute d'Adam, c'est aussi la mienne. Je suis pécheur en raison d'Adam, puisqu'Adam nous contenait en quelque sorte déjà primitivement en lui. Donc, comme il y a un héritage, nous sommes les fils de nos parents, nous avons une histoire familiale, parfois très, très longue et parfois très difficile, eh bien nous avons une histoire qui remonte à la nuit des temps, et nous étions en quelque sorte comme déjà présents en Adam, bien que réellement je n'y sois pas, je n'existais pas avant que mes parents me fassent naître. Néanmoins, ce que Adam a fait, il l'a fait non seulement en son nom, mais il l'a fait comme le patriarche de l'humanité, il l'a fait aussi en notre nom. Alors pour le meilleur, c'était bien avant le péché, mais il l'a fait aussi pour le pire, lorsqu'il a commis avec Ève le premier péché.
Nous arrivons à peu près au milieu de cette émission. Je propose que nous fassions une pause en musique, comme c'est la tradition de Vivante Église, avant de reprendre avec vous notre exploration de la notion de péché originel. Nous allons écouter Le Cœur des Esprits, extrait de l'oratorio Le Paradis Perdu de Théodore Dubois. C'est au début de la troisième partie, La Tentation.
présence. Vivante Église, Éric Dupri.
Retour à l'antenne pour cette seconde partie de Vivante Église avec mon invité, le père Philippe-Marie Margelidon, frère dominicain, docteur en théologie et auteur du livre « La condition originelle et la tentation d'Adam, le péché originel et sa transmission » paru chez Pierre Tecky, éditeur. J'en viens à ce livre, justement, sur la quatrième de couverture. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez écrite, certainement pas, mais il est écrit que le péché originel trouble la nature humaine en la désordonnant. Et un peu plus loin, méditer sur le péché originel est indispensable pour obtenir une vraie compréhension de la nature humaine. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer et transmettre dans ce livre? Et pour cela, sur quels écrits et quels penseurs du christianisme vous êtes-vous appuyé?
Alors le livre est né d'un précédent livre que j'avais fait sur la grâce, des leçons, dans laquelle il y avait une leçon qui était consacrée à la grâce originelle ou à la grâce dans les origines. Et donc j'étais amené à parler du péché originel. Ce chapitre a suscité, je m'en doutais un peu en l'écrivant, toutes sortes de commentaires, alors oraux ou de lettres, d'emails et de remarques et même de contestations. Donc j'ai fait un second livre pour faire une sorte de mise au point et puis répondre à mes objecteurs, ou pas forcément des objecteurs, mais aussi des gens qui voulaient en savoir un peu plus. Donc j'écris ce second livre, celui dont vous parlez, puis à la suite de quoi j'en ai fait un troisième, c'est-à-dire le dernier, qui concerne uniquement saint Thomas d'Aquin. J'ai fait ce livre, donc il est né d'un autre livre, mais ce livre sur la condition originelle d'Adam, il était motivé surtout par je voyais en tant que directeur de la revue Thomiste et en tant que professeur de théologie, que mes auditeurs, c'est-à-dire mes élèves, et puis les publications de théologie, depuis déjà au moins une cinquantaine d'années, étaient en difficulté sur ce point. Donc la question du péché originel, une vieille question qui a toujours suscité des questions, mais aujourd'hui, depuis déjà, je dis 50-60 ans, des contestations, et non seulement en dehors de l'Église catholique, mais à l'intérieur de l'Église catholique, chez non seulement les croyants, mais chez des théologiens eux-mêmes. Alors ça m'a quand même mis la puce à l'oreille, et j'ai donc écrit ces livres pour répondre, autant que je le pouvais, à toutes les questions que suscitait la doctrine catholique du péché originel, parce que c'est la doctrine enseignée par l'Église. Vous faites un petit essai en ouvrant le catéchisme de l'Église catholique, vous regardez à péché originel, c'est assez long, assez serré, et vous l'exposez à un groupe de gens pas très au fait de la chose, les réactions ne manquent pas, et les réactions plutôt négatives, soit parce qu'on ne comprend pas, ou soit parce qu'on comprend, on rejette ou on refuse. Alors donc je me suis dit, il faut prendre les choses à bras-le-corps, parce que c'est un élément de la révélation. Si on rejette la doctrine du péché originel, on rejette au moins une partie de la révélation. Ça ne me paraît pas, du point de vue de l'orthodoxie de la foi, permettez-moi d'utiliser cette expression, ça ne me paraît pas acceptable. Mais encore faut-il comprendre pourquoi les gens font des objections. Parce qu'il y a des objections qui sont, ou des questions qui ne sont pas forcément des objections, mais des questions qui sont tout à fait légitimes. Il faut, comme on dit aujourd'hui, décrypter cet enseignement, il faut le décortiquer, l'analyser, et puis voir quelles sont les objections qui valent la peine d'être étudiées de près, et puis d'autres qui tapent à côté de la plaque. Mais encore faut-il le montrer. C'est tout ça qui a motivé mon travail.
Donc la deuxième partie de ma question, c'est sur quels écrits, oui, quels penseurs du christianisme vous avez appuyé. Alors le premier d'entre eux, c'est saint Thomas d'Aquin.
Alors saint Thomas d'Aquin, parce que je suis directeur de la revue Thomiste, et puis je suis dominicain, les dominicains ont quand même quelques rapports avec saint, oui, Thomas d'Aquin. C'est le centenaire de saint Thomas d'Aquin. Cette année, nous sommes le deuxième année du triple centenaire. Donc on fait beaucoup de choses autour de saint Thomas. On écrit beaucoup sur saint Thomas. Donc, je me suis appuyé principalement sur lui. Je l'ai quand même bien étudié, je pense, sur cette question, puisque j'ai donc trois livres qui concernent ce sujet. Et puis d'un deuxième auteur qui m'a beaucoup impressionné, plus récent, lui, c'est au XXe siècle, c'est le pape Jean-Paul II. Il se trouve que dans les années 80, le pape Jean-Paul II avait proclamé, enfin, il avait prononcé plutôt que proclamé, 9 catéchèses longues, longues et assez techniques, assez difficiles, je pense, pour les simples gens. 9 catéchèses très élaborées sur le péché originel. Parce que déjà, le pape, en ce temps-là, voyait très bien qu'il y avait comme on dit aujourd'hui, un problème. Un problème grave. Et il a voulu y remédier en incitant les théologiens, et je dirais même, il l'a fait pour inciter les théologiens à se réapproprier cette doctrine en l'expliquant et en l'explicitant. Donc c'est à la suite de Jean-Paul II, enfin, au fond c'est l'aiguillon. Pour moi, ça a été ces catéchèses que j'ai retraduites et que j'analyse dans le livre dont vous avez parlé. Donc je dirais que c'est vraiment les deux auteurs, saint Thomas pour l'explication générale, et puis pour les raisons de fond, et puis aussi la compréhension de certains nombres de problèmes actuels, c'est le pape Jean-Paul II.
Alors, c'est peut-être pas facile à résumer pour l'un et pour l'autre, mais quelle est leur appréhension, si je puis dire, compréhension, conception du péché originel à l'un et à l'autre?
Alors, le but de Jean-Paul II, comme le but de saint Thomas, en des termes un peu différents, hein, on n'est pas au XIIIe siècle pour le pape Jean-Paul II, on est au XXe siècle, c'est d'expliquer l'homme. L'interrogation principale de Jean-Paul II, c'est qu'est-ce que l'homme, et quelle est sa fin, F-I-N. Et on ne peut pas parler de l'homme, de sa nature. Le pape Jean-Paul II est un penseur de la nature et en partie de la loi morale naturelle, qui fait justement débat encore aujourd'hui. On ne peut pas penser l'homme et sa nature sans parler de la grâce et sans parler entre la nature et la grâce du péché. Et il a consacré ses 9 catéchèses pour expliquer que je ne peux pas penser l'homme si je ne le pense pas dans sa condition réelle, c'est-à-dire une condition déchue. La déchéance de sa nature, elle réside tout entière dans ce qu'on appelle le péché originel. Donc c'est ça l'axe fondamental du pape Jean-Paul II. Autrement dit, le but du pape, c'est pas de nous accabler à propos du péché, c'est de nous montrer que pour arriver à la fin pour laquelle Dieu nous a créés, la béatitude éternelle, il faut que l'homme comprenne qu'il ne pourra pas se sauver, être sauvé, sauver sa nature, sauver son humanité, sans tenir compte du fait qu'il y a quelque chose qui l'empêche, ce qu'on appelle, d'un mot qui vaut ce qu'il vaut, hein, on n'a pas trouvé mieux, ben enfin il s'appelle ce gros mot qu'on appelle le péché originel. Et donc les 9 catéchèses, c'est l'axe fondamental et c'est celle aussi que j'ai voulu suivre. Donc au fond, pour encore dire les choses autrement, le péché originel nous fait connaître l'homme dans sa réalité la plus profonde.
Et saint Thomas d'Aquin, lui, que dit-il? Jean-Paul II s'appuie lui-même sur saint Thomas d'Aquin?
Tout à fait. Il faut savoir que l'Église catholique, le pape Jean-Paul II, mais l'Église catholique au-delà du pape Jean-Paul II, jusque dans le catéchisme de l'Église catholique, quand même, si on veut savoir qu'est-ce que l'Église croit aujourd'hui, il faut ouvrir le catéchisme. On a tout là-dedans. Oui. Hein. À propos du péché originel, comme de bien d'autres sujets, elle fait référence à saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas, c'est le docteur de la grâce, mais c'est aussi le docteur de la nature humaine. Étant le docteur de la nature humaine et de la grâce, c'est aussi le docteur du péché et du péché originel. Donc le pape Jean-Paul II, dans ses catéchèses, se réfère à 2 auteurs, saint Augustin d'abord, mais à la suite de saint Augustin, à saint Thomas. Et ce qui m'a frappé, justement, c'est ça, c'est qu'il le fait en référence constante à saint Thomas. Pour dire aux théologiens, si vous voulez que la fin du XXe siècle, et maintenant nous au début du XXe, nous comprenons mieux l'homme, pour les théologiens, il est bon de se référer à saint Thomas, parce que c'est lui qui nous a donné les meilleures clés pour comprendre ce mystère, parce que c'est quand même un mystère le péché, hein. C'est moins mystérieux que la grâce, mais c'est le mystère sous-jacent justement à celui de la grâce. Il nous donne les meilleurs moyens de comprendre ce qu'est ce fameux péché originel.
On entend parfois certains chrétiens ou certaines personnes dire « méfiez-vous de vos passions, méfiez-vous de vos désirs ». Est-ce que le péché originel est lié, on parlait d'excès tout à l'heure, un excès de passion, un excès de désir de la part d'Adam et Ève, ou est-ce que c'est plutôt, et c'est ce que j'ai lu sur la 4e de couverture également du livre, que ce qui est pécamineux, donc emprunt du péché, ce serait l'ardeur désordonnée du désir. Donc il y aurait cette notion de désordonné, il y aurait quelque chose de désordonné.
Oui, tout à fait. La nature humaine est bonne, Dieu vit que cela était bon, il le dit aussi de l'homme, de sa nature, mais cette nature, on l'a dit tout à l'heure, elle est grevée, abîmée, détériorée par le péché. Donc nos désirs, nos élans humains sont bons.
Ils ne sont pas mauvais en eux-mêmes.
Ils ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais ils peuvent être désordonnés ou par défaut, manque d'élan, ou surtout par excès. Tout homme cherche la béatitude, le bonheur, le tout c'est de savoir où il va le mettre ce bonheur. Il peut se tromper, gravement. Donc la révélation du péché originel, c'est une bonne nouvelle en réalité. Hein, je fais un peu de provocation en disant ça. C'est que nous savons de quel bois nous sommes faits. D'un bon bois, mais quelquefois qui peut se pourrir. Et donc nos élans, nos désirs humains, tout aussi légitimes qu'ils soient, ils peuvent errer, ils peuvent se dégénérer parce qu'ils sont désordonnés, ils n'ont pas la plénitude de leur ordre, ils ne sont pas ordonnés vers une bonne fin, et de sorte que l'homme devient ce qu'on appelle pécheur.
Justement, le moyen de ne pas être désordonné dans ses passions, dans ses désirs, là encore, on en revient toujours à la grâce.
Oui, c'est le mot clé, hein. Il n'y a pas de nature sans grâce. La grâce perfectionne la nature, dit saint Thomas, et elle la guérit. Donc il faut perfectionner la nature humaine, mais il faut auparavant ou en même temps, il faut la guérir. Et de quoi faut-il la guérir d'abord ? Du péché originel. C'est pour ça que le premier des sacrements, ce n'est pas le plus grand des sacrements, mais c'est le premier des sacrements, c'est le baptême. Parce qu'on ne pourra pas rectifier nos désirs et nos passions sans la grâce de Dieu. Et la rectitude, la rectification, elle n'est possible qu'avec la grâce de Dieu. Or, cette grâce, c'est le Christ qui la donne.
Il y a une notion que j'ai abordée très rapidement tout à l'heure, je vais peut-être passer un peu vite là-dessus, mais je pense que nos auditeurs auront capté l'expression, c'est celle de libre arbitre. Qu'est-ce qu'on en fait de ça, du libre arbitre ?
Alors, il y a ici deux traditions dans le monde occidental. Une tradition pessimiste et une tradition optimiste. Je simplifie. La tradition pessimiste, d'origine d'ailleurs augustinienne, selon laquelle l'homme, à cause du péché originel, est corrompu. C'est une corruption quasi totale. On la trouve d'ailleurs chez certains catholiques, par exemple chez les jansénistes. Les jansénistes, ce sont des catholiques au départ. Et vous le trouvez dans le monde protestant, dans un certain luthéranisme et dans un certain calvinisme. Bon. Pour eux, l'homme a perdu son libre arbitre, ou du moins s'il l'a, il est totalement incapable, s'il existe encore, il est incapable de produire un quelconque bien. Tandis que dans la conception, disons, optimiste, dont Thomas d'Aquin est un représentant, l'homme n'a pas perdu sa liberté, l'image de Dieu dont on parlait tout à l'heure n'est pas perdue, mais cette liberté, elle est abîmée, et donc il a besoin, pour poser des actes salutaires, c'est-à-dire pour parvenir à sa fin, de la grâce. Ça veut dire encore que, par lui-même, l'homme est capable d'un certain nombre de biens. On n'est pas devenu de mauvais gens, simplement par le fait même du péché originel. Mais si l'on veut parvenir à une vie morale réussie, si l'on veut atteindre la fin pour laquelle nous avons été créés, alors ça, ce n'est pas possible pour la liberté humaine. Hein. Elle n'est pas possible, cette liberté, sans la grâce qui vient justement la restaurer, la guérir et la parfaire.
À la fin de votre livre, La condition originelle et la tentation d'Adam, le péché originel et sa transmission, donc avec un sous-titre de saint Thomas d'Aquin à saint Jean-Paul II, à quelle synthèse êtes-vous arrivé ? Êtes-vous d'ailleurs arrivé à une synthèse ? Quelle conclusion avez-vous faite ?
Oui, la synthèse, c'est pour moi, c'est saint Thomas qui me l'a donnée. Donc je n'ai pas eu à faire un grand effort d'imagination. C'est en lisant depuis longtemps saint Thomas que je me suis rendu compte, comme l'Église d'ailleurs, je vous le disais à propos du catéchisme, comme l'Église elle-même le dit, c'est saint Thomas qui m'a donné les meilleures clés de compréhension du rapport entre nature, péché, grâce. Donc la synthèse, pour moi, elle n'était pas à faire, elle était à redécouvrir, et donc à réexplorer, et dans ce livre comme dans le suivant, j'ai tenté de le faire le plus possible pour que la doctrine de saint Thomas soit intelligible, et aussi montrer que la doctrine catholique, elle est intelligente. Nous ne disons pas des sornettes, nous n'inventons pas des histoires à dormir debout. Ce sont des choses très profondes et qui concernent l'homme dans ce qu'il a de plus concret, dans sa manière de vivre, d'agir. Je ne peux pas parler de l'homme sans parler du mal dont il est l'origine. Vous voyez, l'optimisme excessif. Il y avait un journaliste qui est mort l'année dernière qui s'appelait Jacques Julliard.
Oui.
Jacques Julliard disait... Pourtant, c'était un homme de gauche. Hein.
Oui, il disait, j'allais préciser d'ailleurs.
C'est un homme de gauche, mais un chrétien, un catho de gauche, qui disait, il y a une chose que je reproche à mes confrères de gauche, c'est qu'ils ignorent le péché originel. Ils sont rousseauistes, ils ont l'impression que l'homme est bon par nature. L'homme est bon, il a une nature, mais elle est grevée par le péché originel. Il écrit noir sur blanc dans plusieurs de ses livres. Je crois que c'est ça qui distingue les deux traditions dont nous parlons tout à l'heure. Et donc ça a des conséquences, même vous voyez, sur la politique pour Jacques Julliard. Pour Jacques Julliard, la négation du péché originel vous empêche de penser une saine politique pour l'homme et donc pour le bien commun de la société.
Mais ça empêche de penser le mal, je pense, tout simplement.
De penser
vraiment...
Et si
on ne pense pas le mal, la politique, c'est peut-être d'abord ça, d'ailleurs.
Tout à fait, donc de penser le mal, et même le mal dans le domaine de la vie politique. Le péché originel vous fait comprendre comment les hommes fonctionnent en mal. Mais aussi, il y a du bien, hein, mais que ce bien est sans cesse corrodé par un mal. Et le premier de ces mots qu'il faut connaître d'assez près pour comprendre le mal, encore une fois, c'est le péché originel.
Donc il est urgent de redécouvrir cette notion de péché originel.
Je crois. C'est pour ça que je dis que c'est une bonne nouvelle pour comprendre l'homme. Mais ce qui est encore plus grand, c'est de comprendre le mystère de la grâce. Hein. Ça, c'est plus grand encore que le mystère du péché.
C'est le stade suivant.
C'est le stade suivant. C'est pour
je dirais que c'est le second étage de la fusée, mais le premier, c'est tout de même de pouvoir appréhender, d'être conscient de cette notion de péché originel.
Tout à fait.
On va en rester là. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup d'autres choses à dire sur le péché originel. Peut-être qu'on en fera une série d'émissions et je vous réinviterai avec grand plaisir pour en parler. Donc, on en reste là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Père Philippe-Marie Margelidon. Je rappelle le titre de votre livre paru chez Pierre Tecky Éditeur, La condition originelle et la tentation d'Adam, le péché originel et sa transmission. Et puis tout récemment, vous venez de faire paraître, mais là c'est le troisième étage de la fusée, Le péché originel avec Thomas d'Aquin chez Saint-Léger Éditions. Cette émission était animée par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Très bonne journée à tous, à la semaine prochaine.